Je vous propose de passer tout de suite à la présentation de ce séminaire par Jean-Louis de Rouet.
Bien. Bon, l'heure effectivement va peut-être un petit peu nous presser, encore que non. Mais je vais tout de même prendre le temps de quelques remerciements. Bon, d'abord évidemment remerciements pour Christine Ladraille, même si nous avons préparé ces journées ensemble, il est bien évident que le régional de l'étape a toute la logistique et bon, c'est un gros travail dont il faut la remercier. Remercier évidemment donc l'Académie de Nantes, je reviendrai sur votre intervention, monsieur le recteur. Remercier aussi mes collègues du CRAEN, du Centre de recherche en éducation de Nantes, et en particulier Yves Duterque, qui sera le grand discutant de cette journée, et plusieurs travaux de l'équipe d'Ukraine vont servir de base à des ateliers. En ce sens, je crois effectivement que ce croisement entre une équipe INRP, ces liens avec les PASI, les missions à l'innovation et à l'expérimentation des différentes académies et les universités, sur ce plan-là, je crois qu'il y a l'exemple d'une bonne dynamique. Et comme l'a dit Michel Bois, je ne sais pas si c'est un service à part recherche, parce que je dirais que c'est dans le cours de la recherche en même temps, c'est exactement comme l'évaluation. Hein. Une recherche, c'est quelque chose qui est, la question de comment est-ce que la notion d'établissement s'implante dans le système éducatif français. Là, je viens de saluer Yves Duterte, qui a longtemps travaillé à l'INRP. Ça fait une bonne vingtaine d'années, je veux dire, depuis le milieu des années 80, qu'il y a un certain nombre de travaux qui entremêlent de la sociologie de l'éducation, de la sociologie politique, de la sociologie d'organisation, etc., autour de cette notion. Et il y a une série de synthèses en marche qui, alors effectivement, doivent être communiqués aux acteurs, parce que je dirais d'une manière générale, dans les sciences sociales, et surtout dans les sciences sociales un petit peu ethnographiques, enfin, nous demandons aux acteurs de nous transmettre leur expérience. Il y a à la fois, c'est un devoir de leur retransmettre cette expérience un petit peu formalisée, modélisée. En même temps, c'est pour nous quelque chose de très important. Enfin, est-ce qu'ils se reconnaissent? Est-ce que dans la modélisation que nous avons fait? Et c'est spécialement vrai, je dirais, sur les questions d'éducation, puisque ça croise aussi, je dirais, le développement d'une réflexivité, je dirais, assez naturelle de la profession enseignante. On avait parlé récemment, et où il faut à la fois la développer, mais où en même temps nous travaillons avec. Donc, je n'irai pas plus loin dans les remerciements, je dirais que tout cela va se mettre en œuvre dans la journée. Je vais présenter l'objet de la journée. Alors, cette présentation aurait dû être faite avec Jean Fleury, qui est IPR de sciences économiques et sociales et responsable du PASI de Lyon. Il se trouve que Jean a inspecté en Guyane. J'espère qu'il a atterri à Orly et qu'il se dirige vers le train qui lui permettra d'être là cet après-midi, en tout cas, et d'intervenir en fin de journée. Le travail que j'ai présenté est un travail qui a été élaboré dans un séminaire commun de l'INRP et du PASI de Lyon, et donc en particulier avec Jean Fleury, mais aussi avec Marie-Claire Thomas, Violette Tavernier, etc., qui sont là. Alors, notre angle d'attaque, justement, sur les expérimentations article 34, c'est un angle d'attaque qui est le nôtre, qui n'est pas forcément celui ni de l'inspection générale, ni de la MIDIF, ni de l'autorité rectorale, a été de prendre l'expérimentation article 34 dans la continuité des politiques de projet d'établissement. Comme nous l'avons dit, enfin, plusieurs d'entre nous, chercheurs ou acteurs de terrain ou responsables, ont accompagné la mise en place de cette politique de projet d'établissement à partir des années 80. Nous l'avons suivi, je dirais, dans sa belle période, où effectivement il y a eu je veux dire, une prise en main de leur destin par l'établissement, le développement d'une certaine capacité à analyser leur situation. Comme l'a dit, enfin, c'est pas tout à fait ce qu'a dit Monsieur le Recteur, mais il y a fait allusion, souvent, ces projets d'établissement, d'ailleurs, c'était souvent impulsé par des inspecteurs établissements et vie scolaire, ces projets d'établissement se situaient dans le domaine de la vie scolaire ou dans des opérations touchant l'enseignement, mais un petit peu exceptionnelles, des opérations développées dans les CDI, des opérations de soutien à lecture, des sorties, etc. Mais, ne rentrait pas dans l'espace de la classe ordinaire. Ce qui était peut-être d'ailleurs au début une précaution utile. Il n'est pas sûr que, au début de la rénovation des collèges, les enseignants étaient prêts à ce qu'on discute, par exemple, des choix qu'ils opèrent au sein des programmes, dans le cadre des projets d'établissement, etc., certainement. Mais ce qui au départ a été sans doute une précaution utile est devenu assez rapidement un handicap où, si on est méchant, on pourrait dire le projet d'établissement s'occupe de tout sauf de l'essentiel. C'est-à-dire que le projet d'établissement s'occupe effectivement du restaurant scolaire, de l'aménagement des autocars, enfin, etc., ce qui peut être tout à fait fondamental, ou des ateliers théâtre, etc. Bon, pas du tout sans intérêt, mais enfin, il ne rentre pas dans ce qui fait, en principe, le cœur de la mission. Nous avons vu, je crois, enfin, c'est pas l'avis de tous les collègues, enfin, un certain nombre de gens qui lisent beaucoup de projets d'établissement, à partir, j'irais, de 1995, qui, moi, me paraît une rupture assez importante dans le système éducatif français, c'est le moment aussi où la croissance vers les 80% au niveau du bac se casse, enfin, etc., nous avons vu le projet d'établissement devenir quand même une obligation administrative où quand on cherche ce qui est vraiment spécifique à l'établissement qui procède d'une analyse de sa situation, ça devient beaucoup moins clair. On voit en revanche beaucoup plus l'écho justement d'injonctions ministérielles qui sont souvent appuyées d'incitations financières, etc. Et donc, bon, ce que nous avons vu pour un certain nombre d'entre nous dans l'article 34 de la loi de 2005, c'est une certaine façon de relancer le projet d'établissement et de le relancer à partir d'expérimentations qui, le plus souvent, concernent les contenus. On va parler de l'enseignement intégré des sciences. Il y a quand même beaucoup de gens ont répondu sur ce thème-là parce que sans doute le terrain était mûr, qu'il y avait eu toutes sortes de travaux qui faisaient que le terrain était mûr. Enfin, mais il y en a d'autres. On en verra d'autres ou sur l'évaluation par compétences ou sur les nouveaux parcours dans l'enseignement professionnel, etc. Mais donc, il s'agit de réponses qui intègrent justement des questions d'organisation, au sens parfois le plus bête du terme, les emplois du temps, etc., des questions de définition du contenu, avec une avancée, mais qui doit être prudente, mais enfin, une avancée vers cette idée de débat autour d'un curriculum local. Curriculum local qui doit évidemment se développer dans le cadre de programmes nationaux. Enfin, on a fait allusion à l'importance des comparaisons internationales. Il suffit de regarder l'évolution des pays qui n'avaient pas de programme national pour constater que c'est une nécessité. Mais enfin, cette question de l'adaptation curriculaire qui ne doit pas justement se faire uniquement dans la solitude des classes, mais qui doit faire l'objet d'un certain débat. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons travaillé, c'est-à-dire comment est-ce que les expérimentations article 34 font progresser les établissements dans cette façon de prendre leur destin en main. C'est-à-dire que nous ne sommes pas intéressés, comme le feront certains ateliers, etc., forcément au contenu. Nous n'avons pas pris comme entrée principale le contenu des expérimentations, savoir s'agit-il de telle didactique, s'agit-il, etc. Mais nous nous sommes intéressés à la dynamique de changement. Alors, bien sûr, on ne peut pas séparer complètement le contenu de la dynamique de changement, mais nous nous sommes spécialement centré sur cette question de la dynamique de changement, avec une interrogation sociologique, mais en quelque sorte, mais aussi très, très pratique, qui est comment est-ce que des gens aussi différents peuvent coordonner leur action. Nous avions, j'évoquais les travaux que nous avions faits sur, nous avions menés sur la rénovation des collèges, en particulier avec Yves Duterque. Si on se réfère à la vision assez optimiste du social qui était dans les premières circulaires d'Anna Savary sur le projet d'établissement. Vous savez, il y avait une progression en trois moments. Un premier moment qui était l'analyse des besoins, un deuxième moment qui était le dégagement des priorités, et un troisième moment qui était le choix des dispositifs. Bon. Bien, et donc il y avait l'idée que dans cette idée d'analyse des besoins, que bon bah bien sûr analyse des besoins, tout le monde allait exprimer ses besoins. Et Dieu sait que nous sommes dans un univers à référence multiple, donc il allait apparaître des besoins dans le domaine de l'égalité, il allait apparaître des besoins dans le domaine de l'efficacité et de la performance, il allait apparaître des besoins dans le domaine de la prise en compte de la personnalité, dans le domaine de l'aménagement du confort des élèves, le développement de leur créativité, etc. Enfin, des choses qui ne sont pas incompatibles, mais qui ne sont quand même pas facilement articulables. Et l'idée était que dans le débat, progressivement, des priorités allaient se dégager. Il y avait une philosophie sociale optimiste qui est entre gens de bonne foi, lorsque on débat, progressivement, on construit des consensus, on dégage, on trouve des points d'équilibre, etc. Or, je dois dire que dans les travaux que nous avons menés, nous avons plutôt constaté que le mouvement naturel du débat n'est pas de converger vers un consensus, mais plutôt de s'étendre. C'est-à-dire que très naturellement, lorsque dans ces débats, un parti, une faction, pour parler en termes australiens, se sent en situation de faiblesse, la façon de retourner la situation à son profit, c'est d'étendre le débat et d'aller mobiliser plus loin. Des forces qui peuvent. Alors, et comme ça, on peut arriver à des rapports d'expertise européenne, donc d'aller mobiliser plus loin, de faire intervenir des éléments qui n'étaient pas pris en compte dans la situation locale, pour essayer de, en élargissant l'arène, de repositionner les forces. Donc, ce qui nous est assez vite apparu, c'est que ces moments de débat sont importants, il ne faut pas les esquiver. En même temps, il ne faut pas en attendre que ce soit eux qui construisent un accord. Le problème, et là c'est un problème qui renvoie largement à la formation du personnel d'encadrement, c'est comment coordonner l'action de gens qui ne sont pas d'accord. Il y aura forcément, la situation n'est pas plus simple dans le plus petit collège que dans un débat à l'Assemblée nationale ou dans les médias. C'est-à-dire que les positions que je viens d'exprimer, ceux qui disent c'est d'abord l'égalité, ceux qui disent c'est d'abord la performance, ceux qui disent c'est d'abord la créativité des enfants, ceux qui disent c'est d'abord les droits des usagers, c'est d'abord ces arguments-là, nous sommes dans une société critique, une société où toutes les ressources critiques sont disponibles, et quelle que soit la position que vous avancez, il y a dans la presse, etc., tous les éléments, les statistiques, les références philosophiques, etc., il y a tout pour le critiquer et tout. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le débat débouche sur un accord. La question, en revanche, c'est de savoir comment faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, là, ça fait apparaître justement, dans ce que nous avions constaté, le rôle des objets, des dispositifs, des instruments. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord sur les références philosophiques, mais penser, pour des raisons différentes, que tel mode d'organisation du travail des élèves est efficace. Ou que telle telle procédure d'évaluation, etc. La question est de faire converger un certain nombre de gens sur une même dynamique de projet, sur un même dispositif, sur un même mode d'organisation, etc. Et c'est dans cette optique-là, enfin dans cette, avec ce regard-là, que nous regardons les expérimentations article 34. Il faut voir les établissements, et là c'est je dirais comme un monde justement de débats assez kaléidoscopiques, c'est-à-dire que le débat tourne, il apparaît des formes, il apparaît qui se recomposent en permanence. Et un des grands, je dirais, il n'est pas du pouvoir du chef d'établissement de faire tout seul apparaître une forme qui n'apparaîtrait pas dans le débat entre les réseaux sociaux, réseaux pédagogiques, réseaux syndicaux, réseaux personnels, etc., qui s'entrecroisent dans l'établissement. Il n'est pas de son pouvoir de faire apparaître quelque chose qui ne se compose pas, se recompose pas dans ces réseaux. En revanche, il peut être de son pouvoir, quand une forme apparaît, de la stabiliser. De proposer, justement. Merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention. C'est cela, c'est ce pouvoir, en quelque sorte, de cristallisation, c'est-à-dire que des configurations d'arguments, d'alliances, etc., se recomposent en permanence. Lorsque quelque chose apparaît, peut-être, chez l'établissement important, il a le pouvoir de le stabiliser, de dire, ben voilà, on va le mettre par écrit, on va organiser les emplois du temps en fonction de ça, on va répartir, enfin, faire la répartition des équipes pédagogiques, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est dans cette optique-là que nous avons traité les expérimentations article 34. Il y a du débat dans les établissements, puis à un certain moment, il y a un projet qui va cristalliser un certain nombre de forces dans l'établissement, avec des gens qui vont peut-être converger dessus pour qui vont trouver ce projet bon, mais pour des raisons différentes, avec des références pédagogiques, philosophiques, politiques, etc., différentes. Et à ce moment-là, c'est là, si je puis dire, qu'il y a une complicité vertueuse l'effet de lancement, je dirais, des politiques nationales et, je dirais, de l'autorité des responsables locaux, on peut essayer de stabiliser, de cristalliser autour d'un projet. Donc, c'est dans cette optique-là, si vous voulez, que nous avons regardé les expérimentations article 34, et c'est dans cette optique-là que, alors, là, je dois rendre compte des avis parfois un petit peu divergents qu'il y a dans le groupe autour du terme évaluation. Bien entendu, nos amis du PASI et Jean Fleury en particulier tiennent au terme évaluation. Moi, j'avoue qu'il ne me gêne pas spécialement. Il faut accepter que le terme évaluation ait plusieurs sens, et comme on l'a dit. Enfin, d'autres préféreraient plutôt analyse des dynamiques plutôt que évaluation. Je ne suis pas sûr que qu'il faille se lancer dans une guerre inexperte, mais en tout cas, il fallait avancer dans la préparation du Vademécum. Mais on voit bien le problème. Nous regardons des dynamiques, nous donnons les moyens de les analyser. En se donnant les moyens de les analyser, effectivement, il y a un rapport qui est de l'ordre de l'évaluation, mais justement, tout notre problème, et c'est aussi le problème du PASI, c'est que justement ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le rapport en termes d'évaluation, il est fait pour nourrir un travail permanent de réajustement des défauts. L'évaluation fait apparaître un certain nombre de défauts, et comme l'a dit le recteur, ça n'est pas seulement vrai des situations d'expérimentation, mais c'est un peu plus particulièrement vrai des situations d'expérimentation, puisque on a pris des risques. On a pris des risques, donc bon, il faut mesurer les risques qu'on a pris et se donner les moyens de réajuster. Et donc, bon, et donc il s'agit d'un processus de dynamique continue où, d'une certaine manière, Bon, moi, le terme d'évaluation ne me gêne pas, mais on prend l'évaluation comme un moyen de développer une certaine conscience de soi dans l'établissement, conscience de ce que l'on fait et capacité donc à réajuster ce que l'on fait. C'est un moment de ce travail de développement de la conscience que l'établissement a de lui-même et je dirais plus généralement que un certain nombre de travail social a de lui-même. Et c'est donc dans cette optique que nous avons construit nous commençons à construire ce petit vademecum dont vous trouvez une brève présentation dans le dossier. Alors, le terme de vademecum, là aussi, nous avons beaucoup débattu. Le terme de vademecum est là pour situer, je dirais, la modestie du projet. Il ne s'agit pas en particulier d'un guide qui donne des étapes ou des grilles absolument contraignantes. Il faut le prendre comme un pense-bête qui signale un certain nombre de points importants par lesquels, je dirais, nous vous conseillons de passer, mais l'ordre n'est pas absolument impératif, et il est bien évident que selon la nature aussi des expérimentations, telle entrée prendra beaucoup d'importance, telle autre en prendra moins. Enfin, donc ça doit être pris comme une espèce de pense-bête hein, qui donne des indications sur des points auxquels il nous paraît important de réfléchir. Ça n'est pas un guide et c'est encore moins, je dirais, une grille où il faut mettre des plus, des moins ou compter des bâtonnets. De plus, je signale que le texte qui est là est destiné à exposer le concept. Ce n'est pas le plan du vademecum tel qu'il existera. Hein, l'introduction en quelque sorte, et ensuite le vademecum est destiné à avoir une entrée beaucoup plus pratique et qui puisse servir, je dirais, aussi bien, je dirais, un petit peu de pense-bête aux équipes en expérimentation pour construire et ajuster leurs projets, à des évaluateurs, je dirais semi-extérieurs, un petit peu ce que Romain Normand va exposer demain à partir des exemples anglo-saxons, sur ce qu'on appelle l'ami critique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est un extérieur, qui donc a un regard critique, mais qui, en même temps, se donne comme tâche aussi de comprendre le terrain, de comprendre ses présupposés, pas forcément de les partager, peut-être de les interroger, mais enfin qui n'est pas un évaluateur externe au sens où je regarde les résultats et je coche réussi, pas réussi, réussi à moitié, etc. Donc que ce vademecum puisse servir à plusieurs démarches. Alors là-dedans, nous accordons et cela, ça nous amène parfois à interroger assez. Et en plus, bon, ce vademecum, pardon, sera complété par un certain nombre d'études de cas. Et si nous y arrivons, enfin, ce que j'aimerais beaucoup, enfin, la commande que je passe aux équipes n'est pas forcément facile à suivre, c'est que ces études de cas montrent qu'il y a plusieurs, entre guillemets, bonnes solutions à un même problème. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce parce qu'il faut aussi prévenir, je dirais, les mauvais usages des bonnes analyses qui sont parfois, ça m'est arrivé dans des travaux qu'on avait faits sur des projets d'établissement, qui sont traduits dans des opérations de formation dans le terme du one best way, hein, c'est-à-dire qu'il y a une seule bonne voie pour bon. Et donc il serait très important que ces études de cas montrent que à partir de problèmes un peu similaires, des établissements ont emprunté des voies différentes et que chacune, enfin, ont rendu quelque chose d'intéressant, peut-être critiquable, mais enfin d'intéressant. Donc ce valébécum est aussi, les études de cas sont tout aussi importantes peut-être que la démarche qui est exposée dans le valébécum. Je lis quelques mots sur cette démarche. Il y a une vieille, un vieux constat que font les chercheurs, qui est que quand on se trouve face à des difficultés, tout simplement, ces difficultés renvoient à des impensés de la démarche initiale. C'est un petit peu ce que nous constatons à un autre niveau aujourd'hui sur le collège unique. Enfin, je veux dire que les difficultés actuelles du collège unique nous amènent à revenir sur les conditions dans lesquelles, à partir des années 60, on est monté vers un système standardisé qui est devenu le collège unique et... les difficultés actuelles renvoient souvent à des impensés d'origine. En même temps, on prend ce qu'on avait vu quelquefois à l'époque du projet d'établissement, si on prend une démarche, je dis ça en souriant, léninienne, c'est-à-dire sans théorie juste, pas d'action juste, le temps d'avoir débattu sur la théorie juste, évidemment, on ne fait rien pendant de nombreuses années. Donc il faut en même temps que les gens se lancent, et à partir du moment où ils se lancent, forcément, il y a des présupposés non élucidés, il y a des impensés, il y a des... c'est pas possible autrement. Mais en même temps, un des points de départ de la démarche, c'est de revenir sur la genèse que très souvent les équipes ont un peu tendance à occulter, ou qu'elles ont tendance, comme je dirais à peu près toutes les sociétés, à romancer, c'est-à-dire que à effacer par exemple les lignes de construction du projet, et à faire comme si le projet qui était choisi pour l'implémentation article 34 s'était imposé de lui-même, de toute éternité, l'établissement était destiné à s'engager dans cette expérimentation, c'était vraiment ce qui lui collait, etc. Il est très intéressant, en général évidemment, ça ne s'est pas imposé sans débat. Parfois, ça s'est imposé contre d'autres projets qu'on a écartés, etc. Donc, mais en même temps, très vite, il se construit une histoire sainte, un roman des origines de l'expérimentation. Les gens qu'on va rencontrer souvent quand on arrive, l'expérimentation a un peu commencé, ils ont déjà joué leur petit tite-live, ils vous ont raconté comment la République romaine a chassé les mauvais rois, etc. Il est très important de recueillir autant qu'on le peut la mémoire de l'expérimentation avant l'expérimentation. Les débats qu'il y a eu et tout ce qui a été écarté pour définir un ordre dans une société à justification multiple, il faut écarter des tas de choses. Et bien sûr, les choses qu'on a écartées vont vous revenir dans la figure, une partie vont vous revenir dans la figure au bout d'un certain temps. Mais c'est très important de voir comment a été fait ce travail, et c'est parfois le plus difficile. Je veux dire que les gens ont assez bien gardé la mémoire des alliances, c'est-à-dire comment est-ce que différents réseaux syndicaux, pédagogiques ont pu converger. Ça, on sait assez bien décrire les alliances et les connexions de ressources. On a envoyé aux oubliettes, en revanche, tout ce qui n'a pas été retenu, tout ce qui a été écarté. Or, ça va être très important dans l'évaluation, parce que ce qui a été écarté, effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas pris en compte, mais qui vont continuer leur vie, qui vont continuer leur vie à côté, une vie sourde, et puis qui vont en permanence fissurer en quelque sorte l'ordre qui s'est établi. Alors ensuite, nous travaillons un petit peu comme les sociologues de la science, c'est-à-dire que lorsque comme ça une proposition d'expérimentation s'est formalisée, a cristallisé, il faut voir des tas de choses, il faut voir comment est-ce qu'elle mobilise progressivement des ressources de nature extrêmement différentes. C'est un historien américain de la Révolution française, Charles Tilly, qui n'a pas toujours été retenu par les historiens français, mais attire notre attention dans les phénomènes révolutionnaires en général, et en particulier dans le cas de la Révolution française, sur les phénomènes de boule de neige. C'est-à-dire qu'il fait remarquer, mais avec ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que la Révolution française ne commence pas en 1789, mais en 1787 par une révolution nobiliaire contre le pouvoir royal. Et qu'il y a un phénomène de boule de neige, justement, une dynamique qui se met en place et qui va progressivement rassembler des revendications qui n'ont comme point commun que d'être contre le pouvoir royal, mais qu'en même temps, c'est ça qui crée la dynamique du mouvement jusqu'au moment où l'hétérogénéité est telle qu'effectivement la boule de neige éclate et que les différents partenaires se coupent joyeusement la tête. Mais je crois qu'il y a il faut dans la genèse d'un projet suivre cette dynamique, ce moment de boule de neige où un projet va devenir justement. Nous avions vu ça justement sur différents points des politiques nationales, comme le projet d'établissement. Nous avons connu un moment où dans le système éducatif, quelle que soit la question posée, la réponse était l'établissement scolaire. C'est-à-dire que c'était l'autonomie de l'établissement. Et quelle que soit la question, comment s'adapter dans les zones difficiles aux difficultés de la autonomie de l'établissement. Comment développer la performance dans tel ou tel domaine, autonomie de l'établissement, qui met l'établissement en concurrence, donc qui stimule la performance. Comment faire mieux droit aux revendications des usagers, enfin des parents d'élèves d'aujourd'hui, à qui on ne peut pas dire, l'école ne peut plus dire qu'elle sait mieux qu'eux quel est le bien pour leurs enfants. Réponse: autonomie de l'établissement et contrôle des parents, etc., etc. Bon, il y a un moment quand une expérimentation prend, où dans l'établissement, elle devient, et c'est ce que va étudier, je crois, dans un atelier Pascal Chenet, elle devient point de passage obligé, c'est-à-dire que, quelle que soit la question posée, il faut passer par ce dispositif-là, ce qui suppose toute une série de traductions, etc. Et évidemment, là aussi, il y a une dynamique de la boule de neige, elle a un moment de dynamique où elle agglomère tout, et puis il y a un moment où l'hétérogénéité est telle qu'au contraire, elle va être en difficulté. Ensuite, beaucoup regarder, parce que cette dynamique, elle est évidemment très, très usante, elle repose beaucoup sur l'engagement de quelques personnes, militants, porte-parole, etc. Ces personnes se fatiguent très vite. Enfin, je veux dire que il faut très vite créer des routines et des stabilisations. Si vous devez tous les matins rejustifier tout le projet et tout de A à Z, il faut avoir des routines qui stabilisent et qui font au bout d'un certain temps. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Et puis ça, cette période de stabilisation, de choix des dispositifs, elle est tout à fait essentielle. Mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de pièges et choisir le bon dispositif qui correspond vraiment à votre projet est quelque chose de très difficile. Et ce qu'on remarque, c'est que là aussi, il y a des modes, il y a des dispositifs, des types de dispositifs, des types d'objets qui sont dans l'air. Ceux qui sont dans l'air aujourd'hui, c'est fabriquer un logiciel ou fabriquer un, etc., etc. Est-ce que c'est forcément, est-ce que celui qui est dans l'air est celui qui correspond le mieux au projet qu'on a en main? Je dirais, là, c'est, et là encore, bon, nous parlons a posteriori, il est très facile évidemment de parler a posteriori, c'est, dans la dynamique c'est plus difficile, mais il y a vraiment là un moment absolument décisif, puisque ce que l'on dit, et qui est parfaitement vrai, c'est la courte durée de vie des innovations. Vous avez dit, l'expérimentation article 34, c'est un contrat de 5 ans. 5 ans, c'est très long. Alors, je ne sais, il y avait eu des enquêtes, mais qui sont un petit peu anciennes, enfin, sur la durée de vie des innovations, et c'était souvent 3 ans, hein, pour des raisons tout simplement de fatigue. Cette question de la stabilisation est absolument essentielle, qu'on puisse se reposer sur des objets qui font que ça devient un fonctionnement naturel. Mais ces objets sont absolument pleins de pièges, et il faut se dire que tous les objets, un objet comme ça, regardez combien ça met à l'épreuve les compétences des personnes. Ils me regardent d'un œil mauvais, je me sens bien incompétent. De tous ces yeux méchants et de différentes couleurs dont ils me regardent, je me sens particulièrement incompétent vis-à-vis de cet objet. Mais les objets mettent à l'épreuve les compétences des personnes. Il faut choisir l'objet qui vous permet... qui correspond à vos compétences. Enfin, nous en arrivons à ces différentes phases de l'évaluation, et là, je dois dire que Monsieur le Recteur a, me semble-t-il, bien présenté les différents problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Bon. Il y a cette question de l'auto-évaluation, alors d'une auto-évaluation qui doit être tout de même armée, mais enfin qui est interne et qui a pour but le réajustement local des défauts. Il est à la fois très important qu'il y ait des impulsions de l'administration centrale. Il faut, je crois que ce sera un point qui sera développé par M. Bonnour, il faut évidemment que ces impulsions rencontrent un certain mode de maturité du terrain. Il y a des impulsions qui, par certains côtés, Michel Crozier parlait parfois d'idéalisme administratif, il y a d'impulsions qui sont tellement en avance par rapport à l'état du terrain qu'elles restent lettre morte.
Oui, et d'impulsions, par contre, bien sûr, il y a ce type...
On en trouverait dans notre BO.
Je vais vous dire le contraire, on en trouverait dans le BO. Mais on pourrait constater aussi à quel point, et on le voit, excusez-moi de vous interrompre, on voit à quel point... par contre, certaines impulsions de pilotage de centrale, en fait, c'est un petit peu comme un étau. Elles répondent complètement. On s'aperçoit, on le voit dans les remontées que l'on voit en ce moment sur l'expérimentation lycée, à quel point, d'ores et déjà, dans les expérimentations que l'on connaît déjà, et quand on a le bonheur de les lire, c'est quand même assez très passionnant, de mesurer à quel point, dans les établissements, les équipes ont su prendre d'ores et déjà le chemin. Hein, à quel point on peut imaginer sans peine qu'on se soit inspiré de choses qui viennent du terrain et qui sont très bien faites et qui sont remarquables. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dire à quel point on est intéressé. Et quand dans les derniers courriers que la MIVIP a envoyés, on a dit « S'il vous plaît, faites-nous remonter tout, pas seulement les expérimentations article 34, mais le reste aussi. » Parce que les réflexions qui s'engagent dans les établissements, eh bien, elles sont passionnantes. Elles sont intéressantes.
Oui, tout à fait. Je crois que l'impulsion est absolument essentielle. Mais en même temps, après, le travail de réajustement des défauts, il est local. C'est-à-dire qu'une fois l'impulsion lancée, sa gestion réclame un gros engagement local. Et là, c'est tout de même, c'est sans doute un des points faibles de la notion de projet d'établissement, ce travail qu'on peut appeler d'auto-évaluation, en tout cas de réajustement local des défauts, il est très peu armé d'instruments. Enfin, il y a, alors c'est évidemment, je prêche évidemment des convaincus, mais il y a dans le travail justement d'intersection entre la recherche, la formation, l'expérimentation, etc. Il y a un gros travail. Et si on regarde, Romain Normand, il avait fait allusion au précédent séminaire, il y reviendra peut-être. Bon, si on regarde la manière dont le travail du terrain est armé dans un certain nombre de pays anglo-saxons, c'est vrai que en France, il y a un certain déficit, et il ne suffit pas de traduire les grilles anglo-saxonnes pour le combler. Ah, parfait. Je vais aller très vite. Je préfère terminer. Il y a cette évaluation locale. Il y a une autre évaluation en même temps, à laquelle il ne faut pas échapper, complètement externe, qui est de poser la question que vous posiez, quel effet quand même sur les résultats des élèves ? Mais alors là, ça pose des gros problèmes, parce que, vous voyez, vous avez une très belle opération de soutien à lecture dans un collège, ça ne va pas influer sur les résultats au brevet des collèges de façon... Donc il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on croise. Il faut croiser... Il y a d'un côté une évaluation analyse des processus, il y a de l'autre côté une évaluation complètement externe, mais qui va prendre les choses tellement loin que... il n'y a pas de lien avec les processus. En même temps, il ne faut pas du tout dévaloriser cette évaluation qui va prendre pour appui l'ADEP, PISA, etc., sur les résultats. Simplement, il y a un cheminement à mener entre les deux. Et alors... Là, c'est, à mon avis, ça serait un des objectifs du guide, c'est ce cheminement que nous appelons celui de l'ami critique, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans l'expérimentation, qui n'est pas forcément dans la hiérarchie, qui est un petit peu à côté dans la hiérarchie, mais qui... pour des raisons d'expérience, de recherche, de formation, etc., est un petit peu décalé, est capable d'entrer, et d'entrer profondément, y compris d'entrer dans les présupposés de l'équipe expérimentatrice, mais en même temps capable de se décaler et de commencer à faire le lien vers l'évaluation objectiviste. Bon, nous aurons, il s'agit là de je présente un schéma qui va être travaillé dans les ateliers. Je ne crois pas utile d'y revenir après, mais peut-être que ce soir dans la discussion post-atelier, on pourra discuter. Une pause nous attend avec café entre 10h30 et 10h45. Et nous allons essayer de revenir vraiment à 10h45 pour entendre Carole Ortebise.